par exemple, qui a participé à un des chapitres sur l'emploi et sur le chômage. C'est quand même le sujet numéro un, parce que dans 24 heures, il y aura 1000 chômeurs de plus dans ce pays. Hein. C'est quand même un sujet urgent, brûlant, que celui-là. Quelle est votre analyse, votre regard, et quelles sont les pistes auxquels vous êtes parvenu.
Alors, peut-être commencer effectivement par les éléments d'analyse par rapport à ce que vous avez évoqué en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce dans quoi on est depuis maintenant plus de 20 ans en matière d'analyse du chômage et de l'emploi, c'est un paradigme dans lequel on nous dit que les causes du chômage sont à rechercher du côté des institutions du marché du travail qui ne seraient pas les bonnes. Donc, il faudrait les réformer pour arriver à diminuer le chômage. Donc, en pratique, comme on est effectivement dans un paradigme néolibéral, réformer ces institutions, ça signifie réduire les protections dont bénéficient les salariés. Hein, c'est ça le message effectivement dominant des institutions internationales comme l'OCDE, par exemple, depuis une vingtaine d'années. Le but étant d'arriver à une situation dans laquelle on arriverait par ce biais à baisser le coût du travail et à gagner en compétitivité. Alors ce qu'on dit dans ce chapitre, c'est que tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas fondé, à la fois du point de vue théorique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres manières d'analyser les causes du chômage et d'analyser effectivement le fonctionnement du marché du travail, et aussi du point de vue empirique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments qui donnent tort à ces théories. Donc ce ne sont pas nécessairement effectivement les pays dans lesquels l'indemnisation du chômage est la moins généreuse, dans lesquels on n'a pas de protection de l'emploi, dans lesquels on a un contrat unique. Hein, ce ne sont pas ces pays-là qui ont nécessairement les meilleures performances en termes d'emploi et de chômage. Hein, donc le bilan, c'est que le modèle libéral tel qu'on nous l'a vendu ne fonctionne pas. En ce qui concerne les solutions... Au niveau français, ben effectivement, il faut revenir sur un certain nombre de politiques qui ont été mises en œuvre au cours des toutes dernières années, en particulier le cas de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui clairement, si la reprise se manifeste, ne pourra conduire qu'à de plus faibles créations d'emplois. Donc à mon sens, ça c'est vraiment un dispositif qui doit être supprimé.
Mais de façon plus générale, et ma question s'adresse à tous, quand on vous parle de protectionnisme, quelles sont vos réactions ? Quand on vous parle de réindustrialisation, quelles sont vos réactions aux uns et aux autres ? Qui veut répondre ? Pierre Concialdi, il n'a rien dit jusque-là. Ça va être son tour.
Protectionnisme, je pense que ce n'est pas la bonne façon de poser la question. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de trouver des formes de coopération entre États pour aller vers des objectifs communs. À la limite, dans certains cas, des formes de protection sur certaines choses peuvent aider à construire ces formes de coopération. Mais je crois que le protectionnisme ne doit pas être vu comme une finalité, mais éventuellement comme un moyen, à mon avis, assez accessoire, et surtout, encore une fois, pour construire des coopérations entre États, davantage de solidarité et vers des objectifs clairement identifiés, à mon sens, de progrès social et de progrès économique.
D'autres réactions sur le protectionnisme ? Marine, vous avez envie de parler de ça ? Vous êtes d'accord avec Pierre ?
J'ai sans doute quelques nuances. On a une évolution de l'économie mondiale qui n'est pas acceptable. On a des pays, que ce soit la Chine, l'Allemagne, qui ont des stratégies où leur croissance est basée sur la conquête de marchés extérieurs, sur le fait qu'ils réussissent à être très productifs en distribuant peu de salaires et en ayant des systèmes de protection sociale soit pas développés comme en Chine, soit en dégradation comme en Allemagne. Donc tout ça fait des déséquilibres dans l'économie mondiale qui ne sont pas acceptables. Donc d'un côté, il faut faire pression sur ces pays pour qu'ils changent d'attitude. Il faut leur réclamer des hausses de salaire, l'instauration d'une protection sociale, d'une modification des taux de change. Et il faut une stratégie européenne. Parce qu'actuellement, la stratégie consistant à dire on va imposer aux pays du Sud des politiques d'austérité, ce n'est pas une stratégie porteuse. Et là, c'est de l'utopie complète, mais on a le même problème à l'échelle mondiale. On n'aura pas durablement des Chinois qui vont travailler à bas salaire avec des produits qui vont arriver de manière coûteuse en France. Il faut repenser la division internationale du travail.
Benjamin Coria, oui, intervenir sur ce thème-là.
Oui, je pense que, un débat sur le protectionnisme, je pense qu'on n'est pas tous d'accord. Et puis, de toute façon, ça doit être manié avec des pincettes pour des tas de raisons. Parce que ensuite, on va rentrer dans un monde de rétorsion réciproque. Parce que si on fait du protectionnisme, il y en aura de l'autre côté, etc. Par contre...
Mais qu'est-ce que font les États-Unis s'ils font quand même pas mal de protectionnisme?
Non, mais attendez. Moi, je par veux, exemple... Non, mais moi, je veux bien qu'on dise ça. Mais l'Europe, par exemple, en matière agricole, elle a dressé une barrière absolument insurmontable. Donc, moi, je passe ma vie en Amérique latine, parler avec